Alors, vous vous rappelez peut-être, j'espère, il y a un mois, on était encore avec des cultes enregistrés et j'avais démarré une série de 3 prédications sur la sainteté et la sanctification, avec comme fil conducteur le livre de Daniel et le premier chapitre en particulier de ce livre. Et ce matin, je vous propose de poursuivre cette étude et je vous propose tout de suite la lecture de 2 textes. Tout d'abord, le premier texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12. On est en pleine discussion entre Jésus et les pharisiens. Et Jésus dit aux pharisiens à un moment donné, « Où dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon ? Où dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais ? Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Et puis, un autre texte dans Ézéchiel, au chapitre 36, qui est très connu, j'en suis sûr que vous le connaissez bien. « Je démontrerai la sainteté de mon grand nom, dit Dieu, qui a été déshonoré parmi les nations, puisque vous l'avez déshonoré au milieu d'elles. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, déclare le Seigneur. L'Éternel, quand à travers vous, eh bien je manifesterai ma sainteté à travers, sous leurs yeux. Je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre territoire. Je vous aspergerai d'eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Donc le mois dernier, nous nous étions intéressés au jeune Daniel lors de son arrivée à Babylone en déportation. Et nous le retrouverons encore le mois prochain. Nous avions observé sa détermination à demeurer pur et fidèle à Dieu alors qu'il arrivait dans une nouvelle société prête à l'assimiler, lui, le jeune juif exilé. Et il nous est apparu comme un exemple à suivre. Nous avions noté son désir de se sanctifier en tâchant d'être un homme limpide, sincère, traversé par la lumière. Nous avions aussi relevé sa résolution de ne faire aucun compromis avec les autorités royales, tout en essayant de s'intégrer dans cette nouvelle vie sociale qui allait être la sienne. Nous avions remarqué au passage qu'il y avait 2 sortes de compromis auxquels nous pouvions être confrontés et qu'il nous fallait débusquer. Pour mémoire, il y avait les compromis dans lesquels le monde nous pousse lui-même, tel l'ours avec le chasseur qui voulait un manteau de fourrure et qui avait fini par être englouti par l'ours qui, lui, avait faim. Et puis, les compromis qui venaient de notre fort intérieur, ces petits compromis que nous pouvions faire avec notre conscience et qui, accumulés au fil du temps, finissaient par être comme les coléoptères qui avaient terrassé le grand séquoia, là où ni la foudre, ni les grands tremblements de terre n'y étaient arrivés. Et la phrase clé de ce passage de Daniel était « Daniel résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi ». D'autres traductions disent « Daniel prit à cœur ou arrêta dans son cœur de ne pas se souiller ». C'est donc dans son cœur que Daniel a pris la décision. En 2020, dans notre langue française, quand on parle de cœur, on se réfère souvent, à des sentiments, et souvent même à des sentiments amoureux, avoir des peines de cœur, par exemple. Mais dans la Bible, ce terme désigne, dont on trouve la mention plus d'un millier de fois, désigne bien autre chose qu'un simple sentiment. Et le théologien Jacques Bourronne déclare qu'il désigne le sens, le centre de la personne, la partie la plus profonde de la personnalité, le quartier général de la personnalité qui regroupe la volonté, les sentiments, la pensée et la conscience. C'est donc dire l'importance du cœur pour l'homme. L'Ancien Testament nous montre clairement, dans plusieurs passages, que la valeur d'un homme dépend de l'état de son cœur. Et Jésus, dans cet épisode de Matthieu 12, ne dira pas autre chose aux pharisiens et aux disciples. En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Le problème, c'est qu'en disant cela, il met en avant aussi l'état du cœur des pharisiens qui est rempli de méchanceté et de mensonges et de mauvaises paroles. Déjà, quelques siècles auparavant, le prophète Jérémie lui-même avait averti en déclarant que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, disait-il à l'époque en Jérémie. Souvent, nous pouvons penser que nous sommes pécheurs parce que nous péchons. Mais ce que Jésus déclare aux pharisiens et nous lance comme message au bout de 2000 ans, c'est que nous péchons parce que nous sommes pécheurs. C'est un désaveu pour tous ceux qui considèrent que l'homme est bon par essence. Quand on fait un examen honnête de l'homme, on ne peut en arriver qu'à la conclusion qu'il est mauvais et pécheur. C'est pour cela qu'il était important de commencer à parler de pureté la dernière fois en évoquant la sainteté. Dans certains milieux chrétiens, et à certaines époques dans le temps également, la sainteté se gagnait par les actes. Plus on faisait de bonnes actions, plus on gagnait en sainteté. À l'époque de Jésus, le légalisme et la religiosité en vogue poussaient les pharisiens et les scribes à faire de belles actions au vu et au su de tous. Mais ce n'était que pour entretenir une certaine image, un certain paraître. Mais face à Jésus, cette belle image vole complètement en éclats. Et à de nombreuses reprises dans les évangiles, comme dans ce passage, Jésus va révéler l'état véritable du cœur des pharisiens. Et nous, quel est l'état de notre cœur ? Est-il propre ? Est-il en bon état ? Ou bien avons-nous déjà dû mettre un peu de craie blanche par-ci, par-là? Vous vous souvenez, ces artisans, la dernière fois, qui fabriquaient la porcelaine et qui, pour cacher les défauts, mettaient un peu de craie blanche pour pas qu'on voie les défauts? Est-ce que nous aussi, nous mettons un peu de craie blanche par-ci, par-là, pour cacher les fissures provoquées par le péché dans notre cœur? Il nous faut reconnaître, je crois, et moi le premier, que très souvent, nous ne valons pas mieux que les pharisiens et les scribes. Nous aussi, nous mettons en place des stratégies pour apparaître sous notre meilleur jour aux yeux des autres. Volontairement ou involontairement, nous levons des mécanismes qui vont nous permettre de nous mettre en avant sous notre plus beau jour et montrer que nous sommes mieux que les autres. Nous lisons plus notre Bible que les autres, nous la connaissons mieux que les autres, nous prions plus que les autres et nous sommes plus généreux en aidant les défavorisés que les autres. Et on pourrait rajouter des exemples qui sont hors du cadre religieux. Mieux que les autres. Le mois dernier, nous avions commencé par dire que la racine de tous les maux, c'était de vouloir être comme les autres, à l'image d'Adam et Ève qui avaient voulu être comme Dieu. Mais notre orgueil nous amène à pousser toujours plus cette réflexion, et après avoir voulu être comme les autres, nous cherchons maintenant à vouloir être mieux qu'eux. Les pharisiens aimaient à montrer publiquement qu'ils étaient généreux, par exemple, donc qu'ils étaient mieux que les gens, qui ne l'étaient pas moins. Qui est le sculpteur ? Oui, reconnaissons-le, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Notre cœur n'est pas bon. Et c'est pourquoi nous avions évoqué le mois dernier que la véritable sainteté ne peut prendre sa source que dans un cœur changé, lavé, purifiés par le sang de Jésus. Notre nouvelle vie se fonde sur l'œuvre du Christ qui nous donne une nouvelle identité et un nouveau cœur. Ce n'est pas par nos propres efforts que nous pourrons nous changer. Nous avons besoin de nous l'entendre dire tout à nouveau, même parfois au bout de 20 ou 30 ans de vie chrétienne. Le prédicateur Dominique Anger raconte qu'un jour, dans une salle d'attente chez un médecin, il y avait un tableau qui décrivait un homme, que vous avez aperçu, que je vais vous montrer, qui était en train d'être sculpté. Il était sculpté jusqu'à mi-cuisse, et il faut reconnaître que le physique qui se dégage de lui est un physique dont tout homme rêve. Mais ce qui intrigua Dominique Anger, c'est que l'artiste avait mis dans les mains de l'homme sculpté le burin et le marteau. Ce tableau le marqua, et il en déduisit qu'il avait bien représenté la manière de vivre de nombreux chrétiens qui tentent de vivre ainsi la vie chrétienne. Nous essayons de nous changer. Nous prenons dans nos propres mains ce que nous croyons être les outils d'une transformation spirituelle et nous tentons de nous sculpter en de robustes spécimens semblables au Christ. Or, la transformation spirituelle est essentiellement l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui est le maître sculpteur. Et l'illusion de devenir quelqu'un de bien par nos propres moyens reste tenace en nous. Nous avons besoin de réaffirmer avec force « Je suis quelqu'un de bien, je suis un saint, j'ai un cœur bon, car j'ai été lavé, car j'ai été purifié, car j'ai été justifié par le sang de Jésus, et c'est son esprit qui me transforme chaque jour. » Nous avons subi en fait une véritable transplantation cardiaque, comme nous le dit Ézéchiel dans le passage que nous avons lu. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Ce miracle se perpétue tous les jours et à chaque fois que quelqu'un prend la décision de rompre avec son péché en confiant sa vie tout entière, aux mains percées du Christ vivant, notre Sauveur. Nous recevons donc ainsi un cœur nouveau. Et la sanctification commence et se poursuit ainsi tous les jours à partir du nouveau cœur habité par le Saint-Esprit, dont Michel nous a parlé également tout à l'heure, et continuellement purifié par le sang de l'agneau. C'est chaque jour qu'il faut y faire le ménage. Connaissez-vous le principal produit de ménage qui est utilisé dans la vie chrétienne? Eh bien, ce produit de ménage, c'est la parole de Dieu. Imaginez par exemple que vous ayez un grenier, un peu comme celui-là. C'est le plein jour et vous montez en haut. Dans la pénombre, des petites fenêtres sont fermées et vous apercevez le mobilier et tous les objets entreposés. Tout vous semble calme et en ordre. Mais il suffit que vous entrebâillez les volets et que vous allumiez la lumière pour voir tout d'un coup la poussière voler doucement dans l'air et voir que tous ces meubles, ils sont remplis de poussière. Et quand je permets au puissant projecteur de la parole de Dieu de balayer mon cœur, j'y aperçois toutes les poussières en suspension. Mon besoin de me purifier devient alors de plus en plus accru. Mais attention à notre manière de faire le ménage. D'un côté, il y a ceux qui disent que passer un coup de chiffon et d'aspirateur de temps en temps, comme ça, ça suffit. Nous revenons à ces artisans qui cachent les défauts de leur porcelaine avec un morceau de craie de temps en temps, et nous pensons que parce que nous ne volons pas, nous ne tuons pas, parce que nous essayons d'aider notre prochain, parce que nous allons à l'église tous les dimanches, ça suffit. Mais Dieu, lui, n'est pas dupe. Le projecteur de sa parole braqué avec la lumière de Samuel 16, 7 sur nous rappelle que l'homme regarde aux apparences, mais Dieu, lui, regarde au cœur. C'est donc bien dans notre cœur, et d'abord là, que nous devons faire le ménage. Mais alors, d'autres se disent que puisque Dieu regarde au cœur, ils n'ont pas besoin de faire le ménage à l'extérieur du cœur, c'est-à-dire concrètement dans leurs paroles et dans leurs actes. Pour eux, le principal, c'est d'être sincère dans sa foi, nature, spontanée. Mais là aussi, le projecteur de la parole de Dieu braqué cette fois-ci à la lumière de Tite 2, au verset 3, sur nous, nous rappelle, eh bien, qu'il nous faut avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. Le grand ménage auquel nous sommes appelés, que nous sommes appelés à faire à tous les niveaux de notre être. Et il part du quartier général qui est notre cœur pour s'étendre ensuite à toutes les ramifications de notre vie, que sont nos paroles et que sont nos actes. Car ceux qu'il a connus d'avance, le Christ, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est ce que nous dit Romains au chapitre 8. Peu de personnes aiment faire le ménage. Levez la main, là, tous ceux qui aiment faire le ménage, voir si vous êtes réveillés encore. Ah, il y en a un. Bon, d'accord. En fait, peu de personnes aiment faire ça. Qui aime laver, astiquer, surtout avec la chaleur qu'il fait en ce moment, on n'est pas nombreux. Oui, mais faire le ménage de notre nouveau cœur doit nous motiver. D'abord parce que nous ne sommes pas seuls dans cette tâche. Le Saint-Esprit est celui qui dirige le grand nettoyage. Il nous guide, il nous éclaire sur les endroits où nous devons nous attarder. Il nous fortifie et il nous encourage chaque jour, pas simplement pour ne pas faire le mal, mais aussi pour rechercher le bien, en faisant croître en nous eh bien, son fruit, le fruit de l'Esprit, qui est fait, comme vous le savez, de l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Quel programme de ménage à faire. Car la sanctification possède ces deux dimensions. Il y a les aspects de notre vie où nous sommes invités à ne pas faire, à ne pas dire, à ne pas vivre comme. Et puis surtout, je dirais, il y a sur cet aspect qui met en valeur les vertus de notre nouveau cœur. Ce fruit de l'Esprit qu'il désire faire mûrir en nous, pour être toujours plus à la ressemblance du Christ. Lorsque nous devenons ses enfants, Dieu ne se contente pas de désirer que nous ne soyons pas des pécheurs. Plus encore, il désire que nous soyons à son image qui a été défigurée à la chute. Les contemporains de Daniel ont vu qu'il était différent d'eux. Sa fidélité à son Dieu et son intégrité le mettaient vraiment à part. Mais si ses prises de position et ses actions ont pu déranger certains, eh bien, ils ont aussi donné le courage à d'autres de l'imiter et que Dieu soit glorifié. De même, si nous désirons aussi que les autres voient en nous des hommes et des femmes différents, qui donnent envie à être imités et plus encore à comprendre et connaître ce qui les rend si différents, eh bien, il nous faut laisser l'Esprit Saint nous remplir toujours plus de son fruit. Il nous faut le cultiver pour que chacune de ces 9 saveurs ou odeurs puisse devenir de bonnes odeurs pour ceux qui nous côtoient. Accompagné d'un ami chimiste, un pasteur d'une église de Londres visitait les quartiers défavorisés de cette ville. Ils croisèrent de jeunes filles pauvres dont les vêtements misérables trahissaient leur appartenance à un quartier pauvre de l'Est End. Mais le parfum qui se dégageait d'elles étonna le chimiste. Il interrogea le pasteur. Comment est-il possible que ces pauvres filles puissent se payer un parfum aussi coûteux? Parce que je l'ai reconnu, c'est un parfum de grand prix, ça. C'est simple, répondit l'ecclésiaste. Ces jeunes filles travaillent toute la journée dans une usine à parfum, et leurs vêtements en sont continuellement imprégnés. Telle est la sanctification, un exercice de chaque jour où sous le projecteur de la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit, nous allons petit à petit nous débarrasser des casseroles rouillées ou des chaises cassées qui nous encombrent et qui sont nos inquiétudes, nos impatiences, nos mauvaises pensées ou bien encore nos paroles violentes pour mieux les remplacer par la paix, la patience, la douceur ou bien encore la bienveillance. À l'image de Daniel et de ses 3 compagnons, soyons saints. Soyons comme des lys qui fleurissent sur un tas de fumier. Soyons comme des framboises au milieu des ronces, ou bien encore un jaillissement de lumière pure et chaleureux dans un monde de ténèbres. Que le Dieu de la grâce et l'Esprit Saint nous fortifient dans ce beau projet.